VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonjour à tous. 11h en temps universel, balai diplomatique au Mali. Après les ministres français et allemands des affaires étrangères, ce fut au tour du sous-secrétaire adjoint aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Au cœur de ses visites, le retour de l'administration malienne dans certaines localités au nord du Mali, les récents événements de Kidal, l'accélération dans la mise en application de l'accord de sécurité. On fait le point de tout ceci avec Kassim Traoré.
Le sous-secrétaire adjoint aux opérations de maintien de paix des Nations Unies a eu des échanges avec les différents protagonistes de la crise malienne. Il s'est rendu à Kidal pour échanger avec la CMA. La première des priorités de sa mission est la nécessité d'accélérer la mise en œuvre de l'accord d'Alger signé en mai dernier. Hervé Latsou.
Il est très important qu'on puisse mettre en œuvre effectivement des concepts qui étaient présents dans l'accord. Par exemple, l'idée de patrouille conjointe. Il y en a eu une en décembre et puis c'est plus passé. Or, en fait, c'est en se montrant sur le terrain qu'on convaincra les populations que, voilà, on fait le job.
En tournée africaine avec son homologue allemand, le ministre français de la coopération internationale affirme que le soutien de l'Union européenne sera continuel au Mali. Jean-Marc Ayrault.
L'Europe peut aider à former toutes les armées du G5. Que par ailleurs, nous souhaitons que l'Europe apporte sa contribution financière concrète pour l'équipement de ces armées. Je pense, par exemple, pour l'armée malienne des hélicoptères, ça sera bientôt le cas, mais aussi des blindés, car je crois que ce sont des matériels qui peuvent le mieux protéger les soldats, quelle que soit leur nationalité, on le voit bien actuellement au Mali.
Frank-Walter Steinmeier, ministre allemand des Affaires étrangères.
Nous soutenons le processus de réconciliation.
Les deux ministres européens ont rencontré le président Ibeka à Koulouba. Ils étaient accompagnés par le ministre malien de la coopération internationale, Abdoulaye Diop.
Je voudrais aussi rappeler que les deux pays ont de tout temps, de façon constante, réaffirmé toujours leur attachement à l'unité, à l'intégrité territoriale et à la stabilité du Mali. La France, un pays ami, un pays qui a des relations multiformes avec le Mali. Nos amis allemands, qui ont été les premiers à reconnaître l'indépendance du Mali, qui ont décidé aussi de renforcer leur présence aux côtés de la France, aux côtés d'autres amis européens, dans le cadre de l'EUTM, mais aussi dans le cadre de l'AMUNISMA, pour continuer à travailler à la paix et à la stabilité du Mali.
Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Burkina Faso, l'annulation des mandats d'arrêt contre Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale ivoirienne et l'ancien dirigeant burkinabé Blaise Compaoré, continue de faire des gorges chaudes au pays des hommes intègres. La confiance en cette action de justice est loin de faire l'accord des esprits, malgré la promesse de nouvelles poursuites. Les détails à Ouagadougou avec notre correspondant Issa Napon.
À Ouagadougou, l'on s'interroge sur le réel fondement de cette annulation. Marcel Tangwano est le président du mouvement du 21 avril M21, l'une des organisations de l'insurrection populaire qui a emporté Blaise Compaoré.
Mais nous ne comprenons pas comment à ce niveau-là, après 8 mois qu'on vient nous dire qu'il y a vice de force, nous cherchons à comprendre, nous n'allons pas tolérer cela. Ce n'est pas possible.
À écouter, et le président de la République et quelques personnes autorisées comme le ministre d'État Simon Compaoré, il s'agit là de simples couacs dans les procédures judiciaires qui vont vite se régler. Quand pour d'autres, cela est un réel motif d'inquiétude, l'avocat de la famille Sankara, Maître Ambroise Farama.
Je pense qu'il s'agit probablement de préparer l'opinion publique contre une éventuelle annulation. Et je pense qu'en tant qu'avocat, nous veillerons en tout cas à défendre les intérêts de nos clients.
Comment le commissaire du gouvernement en est-il arrivé là? Mystère, puisque sollicité pour apporter des éclairages, il n'a pas pu être disponible. Issa Napon, Ouagadougou, VOA Afrique.
Le Sénégal et les États-Unis ont signé hier à Dakar un accord de défense permettant la présence permanente de militaires américains dans le pays pour notamment lutter contre la menace terroriste en Afrique de l'Ouest. Tatiana Mousseau.
Un des points de cet accord est la possibilité accordée aux forces américaines d'accéder à des zones au Sénégal, aéroportuaires ou militaires par exemple, pour répondre notamment à des besoins de sécurité ou de santé, et ce pour une durée indéterminée, selon des responsables des deux parties, se refusant néanmoins à parler de base américaine. L'accord a pour objectif de fixer un ensemble de règles sur la façon dont les forces armées des États-Unis coopèrent avec les forces armées du Sénégal et sur les conditions d'accès et d'utilisation des installations concernées lorsque les militaires américains sont invités au Sénégal. Le pays a accueilli en février pour la troisième fois l'exercice militaire Flintlock, organisé annuellement par les États-Unis en Afrique. Jusqu'à présent épargné par les attaques djihadistes, le pays a renforcé la sécurité dans de nombreux lieux publics, comme les hôtels et les administrations.
4 personnes soupçonnées d'avoir diffusé des messages favorables au djihad et de chercher à recruter pour la guerre sainte ont été arrêtées aujourd'hui dans la région de Madrid, a annoncé la garde civile espagnole. Les 4 personnes arrêtées, 3 Marocains et 1 Espagnol, diffusaient de la propagande pour le terrorisme djihadiste sur Internet et par le biais d'applications de messagerie instantanée, selon un communiqué de la garde civile qui n'a précisé ni l'âge ni le sexe des suspects.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le Conseil de sécurité de l'ONU bientôt en Somalie pour manifester son soutien aux élections prévues dans ce pays en août, a indiqué lundi l'ambassadeur égyptien Ahmed Aboulata qui préside le Conseil. La Somalie tente de sortir du chaos et de la guerre civile dans laquelle elle a sombré en 1991. La tournée va durer du 17 au 21 mai. Les représentants des 15 pays feront escale aussi à Nairobi et vont rencontrer la Ligue arabe au Caire. Au Kenya, un bébé a été retiré vivant aujourd'hui des décombres 4 jours après l'effondrement d'un immeuble dans un quartier pauvre de Nairobi, ce qui a causé la mort de 23 personnes. La petite fille a passé près de 80 heures dans une bassine enveloppée dans une couverture et était déshydratée, mais apparemment pas blessée selon la police et la Croix-Rouge kenyane. L'industriel algérien Issad Rebrab a annoncé aujourd'hui un coup de force des autorités contre la presse indépendante du pouvoir politique après la décision du gouvernement de saisir la justice pour faire annuler l'achat d'un groupe de presse par cette première fortune de l'Algérie. Il a appelé la presse nationale et internationale qui célèbre la journée mondiale de la liberté de la presse à se mobiliser contre le fait du prince et contre l'injustice. Et le monde entier, je vous l'ai dit, célèbre aujourd'hui la journée mondiale de la presse. Le thème retenu en 2016, l'accès à l'information et aux libertés fondamentales, c'est votre droit pour le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Il importe que les médias soient libres, indépendants et puissent exercer en toute sécurité. Et puis, ici aux États-Unis, une primaire cruciale dans l'Indiana pour les favoris Donald Trump et Hillary Clinton. Elle pourrait aussi se révéler déterminante pour leurs derniers rivaux. Le sénateur républicain Ted Cruz et son collègue démocrate Bernie Sanders, respectivement. Idrissa Seydoudia.
Une victoire de Trump aujourd'hui dans l'Indiana pourrait sceller le sort de M. Cruz, bien avant même la convention nationale républicaine qui doit investir en juillet à Cleveland, le candidat du parti. L'objectif de M. Cruz est d'empêcher Trump d'avoir les 1237 délégués requis pour passer au premier tour et de l'emporter lui-même par la suite. 57 délégués républicains sont en jeu dans l'Indiana, soit le plus grand lot avant la Californie le 7 juin. Les sondages donnent l'avantage à Trump, qui n'a pas hésité à dire « Si on gagne dans l'Indiana, c'est fini », ajoutant « Et après, on pourra se concentrer sur Hillary, la malhonnête ». La démocrate Hillary Clinton, de son côté, bat campagne dans l'Indiana où la lutte est serrée entre elle et son rival Bernie Sanders. Mais elle a déjà commencé à axer ses attaques sur Donald Trump comme si elle avait déjà éliminé de la course M. Sanders. Ce dernier ne s'avoue pas vaincu et compte poursuivre sa campagne jusqu'à la Convention nationale démocrate en juillet à Philadelphie.
En Syrie, malgré la trêve instaurée le 27 février par les États-Unis et la Russie, la situation ne s'améliore pas. Le secrétaire d'État américain John Kerry a rencontré à Genève ses homologues jordaniens et saoudiens et s'est aussi entretenu avec le médiateur de l'ONU, Stéphane de Mistura. Ce dernier rencontre dans le même but aujourd'hui à Moscou le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov. Et le roi d'Espagne, Felipe VI, a signé aujourd'hui le décret de convocation de nouvelles élections législatives le 26 juin devant l'impossibilité de former un gouvernement après les élections de décembre. Dans ce décret, le roi ordonne la dissolution du Parlement et la tenue d'élections seulement 6 mois après les dernières législatives, car depuis ce scrutin, les principaux partis n'ont pas réussi à s'entendre pour investir un nouveau gouvernement. Le pays n'avait pas vécu une telle période de blocage politique depuis la restauration de la démocratie en Espagne après 40 ans de franquisme en 1977. Jean-Roger Billon à ce micro, merci pour votre loyauté. Restez avec nous dans 50 minutes, un nouveau journal avec, en compagnie de Henri Francisque. À tout à l'heure.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
On y va.